C'est une joie pour moi ce matin de pouvoir annoncer cette parole que le Seigneur nous a laissée. Et je voudrais qu'on lise un premier verset qui va se trouver dans Jean au chapitre 17. Et le verset 17, le contexte est simple, c'est quand Jésus parle à ses disciples et à un moment donné même il est en train de faire une prière à son Père. Il sait qu'il va maintenant avoir lieu la trahison, il va être amené jusqu'à la croix, avoir ce procès totalement injuste. Et alors qu'il est en train de prier son Père, il dit une parole qui est tellement importante. Et je crois que cette parole doit résonner encore plus fort ce matin, parce que c'est quelque chose qui est valable pour aujourd'hui, quelque chose qui nous touche vraiment de près. Dans ces temps de la fin que nous vivons, nous avons besoin d'écouter cette parole avec attention. Jean, chapitre 17, et le verset 17, Jésus dit ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Quelque chose de très simple que je vais relire. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous avons besoin d'ouvrir ce matin les oreilles de notre cœur de la plus forte manière que nous puissions le faire, parce que je crois que cette parole, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin d'être sanctifiés par la vérité. C'est vrai que nous le sommes déjà. Quand nous sommes donnés au Seigneur, nous avons dit, Seigneur, je te donne mon cœur, je veux faire ta volonté, je veux faire tout ce que tu vas me dire, je veux obéir à ta parole. Et combien nous avons mis de l'enthousiasme quand nous sommes donnés au Seigneur, combien nous avons mis de zèle en disant ces paroles, et nous l'avons fait, je pense, de tout notre cœur. Mais combien de fois en avançant dans la vie chrétienne et puis en rencontrant des difficultés ou des obstacles ou des situations particulières, on a tendance à se laisser refroidir en quelque sorte. Et le Seigneur nous a laissé cette parole, sanctifie-les par ta vérité. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous sanctifie. Vous savez que sanctifier, ça veut dire mettre à part. Mettre à part. Et bien sûr, cette parole, alors qu'elle travaille en nous, elle nous sanctifie, elle nous amène à être de mieux en mieux pour le Seigneur, même si tout est grâce. Mais elle nous met aussi à part. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que Dieu, il a donné au peuple d'Israël la loi. Et en faisant cela, il l'a donné d'une façon assez incroyable avec le mont Sinaï, il a manifesté sa gloire sur cette montagne, ça tremblait, je crois que tous ceux qui étaient là, ils tremblaient aussi tellement c'était incroyable. Mais en tout cas, Dieu a mis à part son peuple déjà en lui donnant la loi. Il a fait ça pour aucun autre peuple. Et pour nous qui sommes là, qui avons cru en lui, il nous a laissé sa parole. Et de cette manière, en nous laissant ce témoignage de sa vérité, l'apôtre Paul dit que la parole de vérité, c'est l'évangile de notre salut. Il nous a laissé ça et ça nous met à part de ce monde. Ça nous met à l'écart de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Il a aussi fait quelque chose, c'est qu'il a donné les tables de la loi. Vous savez comment sont appelées les tables de la loi aussi ? Les tables de l'Alliance. Quand il a donné la loi à son peuple, il a fait alliance. Comme Lucas et Leslie ont fait alliance ensemble hier, Dieu a fait alliance avec nous en nous donnant sa parole. De la même manière, il y a Dieu un désir pour ses enfants, c'est d'être en alliance avec eux, de s'engager. Il s'engage envers ses enfants. Et quel engagement il a pris quand on lit toutes ces paroles, toutes ces promesses qu'il nous a laissées, quand on lit les commandements et comment ils sont bons pour nous, quand on les vit, quand on les met en pratique, on se rend compte qu'il y a des bénédictions pour chaque commandement. Quelque chose d'incroyable. Le Seigneur nous met à part de ce monde par sa parole. Et souvent, on a l'impression que sous la loi, c'était quelque chose de vraiment difficile à vivre. Sous la loi, c'était dur. Et c'est vrai que quand on lit les histoires de l'Ancien Testament, là où c'est la dispensation de la loi, on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment pas faciles à comprendre. Mais on a tendance à oublier que la loi de la grâce, elle est aussi particulière. Parce que sous la loi, en fonction du péché qu'on faisait, il y avait différentes gravités, certaines, la plus grave, c'était de mettre à mort la personne. Mais sous la grâce, c'est une personne qui a été donnée pour toutes les autres. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé du Seigneur, qui a été donné pour notre péché. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus grave ? Et la gravité aussi se voit dans le fait que Celui qui refuse cela, ce sacrifice, il va subir la mort pour l'éternité. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est grave aussi? Voilà pourquoi nous devons, nous qui avons la parole de Dieu, prendre soin de la comprendre, prendre soin de la chérir, prendre soin de ne pas l'oublier, mais justement d'y travailler, d'obéir à cette parole avec vérité, avec sincérité de cœur, pour pouvoir être en bénédiction et pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire aussi ce passage qui se trouve dans Malachie, chapitre 2, et le verset 5. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 2, le verset 5. Ça serait tellement intéressant de lire tout le contexte, mais je vous laisse le soin de le faire à la maison. Toujours est-il que le prophète rapporte les paroles de Dieu qui parle à ses sacrificateurs. Et souvent, on a l'impression que les sacrificateurs, on pourrait comparer ça aux pasteurs aujourd'hui. On a l'impression que quand la Bible parle des sacrificateurs, ben on peut vite prendre l'exemple pour les pasteurs. Mais vous savez que Dieu a dit que je ferai de vous une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Tous, autant que nous sommes, quand nous avons accepté le Seigneur, nous sommes des sacrificateurs, dans le nouveau sens du terme. Non pas que nous sacrifions des animaux, mais chacun pour notre part, nous sommes amenés à sacrifier notre vie, à donner notre vie au Seigneur, à ne pas faire notre volonté, mais à obéir à sa parole, à respecter sa loi. Et si nous rencontrons des hommes ou des femmes qui ne connaissent pas cette loi, nous avons ce devoir de leur apporter, ce devoir de les éclairer, selon ce que le Seigneur nous conduira de le faire. Et dans ce texte, le Seigneur reprend les sacrificateurs, mais il y a mon attention qui a été attirée sur ce verset 5. Mon alliance avec Lévi, avec lui, était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Par la suite, on voit que certains, à l'époque, ne faisaient pas du tout ce que Lévi a fait. Et quand on regarde l'histoire dans la Genèse de Lévi, on se rend bien compte que ce n'est pas l'individu Lévi dont il est question, mais c'est ses enfants, au travers d'Aaron, au travers de ceux qui ont suivi, au travers d'Éléazar, au travers d'autres personnes, Phiné, toutes ces personnes qui sont nées, qui ont été engendrées par Lévi, et qui sont devenus les sacrificateurs que Dieu a mis à part du peuple d'Israël, ce sont ces personnes-là dont il est question, qui avaient cette crainte du Seigneur, qui tremblaient devant le nom du Seigneur, qui n'avaient pas l'iniquité dans la bouche, qui marchaient dans la paix et dans la droiture, ce sont ces personnes-là dont il est question. Voilà pourquoi je voudrais qu'on voit un passage où justement, qui concerne une histoire du peuple d'Israël qu'on connaît bien, Exode chapitre 32, et l'important, c'est de ne pas oublier la vérité, de toujours la garder sur notre cœur. Quand il est dit que les sacrificateurs doivent avoir la loi de vérité dans la bouche, ça veut dire que ça doit être bien plus que de la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose qui vient de notre cœur, et de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Exode chapitre 32, nous allons voir qu'il y a un choix qui se pose. Soit garder justement la vérité, garder cette vérité de tout notre cœur, ou l'oublier, avec les conséquences qui sont entraînées. Exode, au chapitre 32, et le verset 1er, nous dit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. peux dire amen parce que c'est marqué. Hein. Même si c'est quelque chose de terrible. Et vous savez que l'apôtre Paul nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin qu'on ne les imite pas. Justement, si c'est marqué, c'est vraiment pour qu'on ne puisse pas les imiter. C'est pas pour émettre un jugement. Bien au contraire, souvent, on va le voir que souvent, ça peut nous arriver de tomber dans les mêmes pièges qu'eux. Parce que remarquez ce qui s'est passé dès le départ. Ce n'est pas un grand péché qu'ils ont commis d'entrée. On est d'accord? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, il s'est assemblé, il allait voir Aaron. Le peuple a commencé simplement à s'impatienter. Est-ce que ça nous est jamais arrivé de nous impatienter par rapport à une promesse que le Seigneur nous a faite? Vous voyez, ça commence tout doucement, mais ça commence sûrement. Et c'est la porte ouverte, il y a un accès à l'ennemi qui se fait à ce moment-là, parce qu'il y avait quelque chose de particulier, c'est que déjà Dieu avait communiqué sa loi de manière audible à Moïse, et qu'il avait rapporté dans un livre, et le peuple était au courant. Vous savez ce qu'il a dit ce peuple? Ça nous est rapporté, je vous le lis pour vous, dans Exode 24. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Ça, c'était le peuple d'Israël juste avant le passage là quand nous voulons lire. Nous ferons tout, tout ce que l'Éternel va nous dire. Et puis, Moïse, Dieu lui demande d'aller sur la montagne, sur le mont Sinaï, pour recevoir les tables de la loi, qui vont servir de témoignage pour ce peuple. Et avant de partir, Moïse il leur dit, surtout, attendez-moi. Attendez-nous jusqu'ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Donc les paroles sont claires quand même. Et Moïse, il avait donné cet ordre parce qu'il avait reçu du Seigneur. Donc le peuple avait une parole de la part de Dieu, de la part de son serviteur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié la parole. Il a oublié même son engagement personnel. Il a oublié cette parole d'attendre jusqu'à ce que nous revenions. Et il a commencé à s'impatienter. Alors bien sûr, il est allé voir Aaron, parce que Moïse avait dit, s'il y a un problème, ben, on a Aaron qui est là, Aaron et Hur, ils pourront juger parmi vous s'il y a besoin. Et le peuple, il n'a pas oublié, il a oublié une partie de la... il a oublié une partie de la parole, mais il n'a pas oublié l'autre partie. Il est allé voir Aaron, et c'était véritablement, c'est comme s'ils s'étaient unis tous ensemble pour faire front à Aaron, en quelque sorte. Et ils ont commencé à dire, allez, fais-nous un dieu maintenant. Et combien je remarque que c'est quelque chose d'incroyable, cette phrase. Parce que non seulement il avait déjà reçu au travers du deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée, pas de représentation de Dieu de manière à ce que ça ressemble à un animal ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de plus insinueux que ça dans cette phrase. C'est que finalement, ces personnes désiraient avoir un Dieu, avoir quelque chose qui symbolisait Dieu, parce que ça simplifiait beaucoup plus leur relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a une statue devant nous, eh bien, il n'y a pas besoin de chercher la présence de Dieu. La présence, elle est là. Il n'y a pas besoin de chercher la volonté de Dieu, la statue, elle ne parle pas. Et vous voyez jusqu'où ça va quand on commence à avoir de l'impatience dans notre cœur par rapport à la parole. On commence à avoir... à désirer certaines choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et moi, j'ai connu des temps dans ma vie chrétienne, j'insiste bien là-dessus, où je me suis refroidi et où j'ai commencé à faire certaines choses qui étaient contre la volonté de Dieu, mais comme je connaissais la Bible, je cherchais des passages qui me rassuraient sur mon comportement quand même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et combien de fois on se trompe nous-mêmes en cherchant dans la parole de Dieu des excuses, comme le diable a cherché un verset pour tenter le Seigneur, nous on cherche des excuses pour couvrir ce qu'on sait que le Seigneur n'aime pas dans notre vie, mais comme on sait qu'on fait peut-être d'autres choses qui sont bonnes, ou qu'on obéit à certaines autres paroles, alors on essaye de couvrir tout cela. Mais le travail du Seigneur, il est dans la vérité. Il nous a donné justement la loi de la vérité. La loi de la vérité doit être dans notre cœur, dans notre bouche. Et nous ne devons pas oublier cette vérité. Nous ne devons pas nous impatienter. Nous ne devons pas essayer de mettre le Seigneur dans une boîte, dans une façon de faire, dans des moyens humains, dans des coutumes religieuses, je dirais, des choses qui ressemblent à ce qu'on ferait pour le Seigneur, mais qui ne concernent plus le Seigneur. Parce que là, On voit bien que c'est le cas. Et moi, je réfléchissais à cette chose. Mais ce peuple d'Israël, il a vécu quand même des choses incroyables. Il a vécu des événements fabuleux. Il a vécu des miracles extraordinaires. Et il a vu les 10 plaies d'Égypte, comment Dieu a jugé. La Bible nous dit que Dieu a jugé les dieux des Égyptiens. Et il y a eu toutes sortes de plaies qui sont venues ridiculiser les dieux des Égyptiens. Vous savez, les Égyptiens avaient toutes sortes de dieux qui étaient représentés sous forme d'animaux ou qui protégeaient les moissons, faisaient toutes sortes de choses comme ça, de dieux du ciel, le dieu du soleil. Et Dieu, dans les 10 plaies d'Égypte, on voit qu'il a ridiculisé les dieux des Égyptiens. Et quand j'imagine ce peuple d'Israël qui demande un dieu, passons, en disant que, même si c'est pas bon, on passe déjà par-dessus. Mais ils ont fait un dieu qui avait la forme d'un veau. Le dieu qui avait fait des miracles extraordinaires, qui avait fait des choses incroyables, ils lui ont donné l'aspect d'un veau. Et vous savez que le peuple d'Israël, il était un éleveur de bétail. Il y avait des moutons, il y avait des veaux, des vaches, des bœufs. Et ce peuple d'Israël, il représentait le Dieu Tout-Puissant qu'il avait sauvé par quelque chose qui rappelait sa réussite personnelle, peut-être qu'il avait des nombreux bétails, quelque chose qui représentait ce que lui avait réussi à faire, comme si c'était quelque chose qu'il avait gagné de lui-même. Combien de fois nous pouvons tomber dans ce piège que ce que nous avons, c'est nous qui l'avons gagné, alors que c'est qu'une grâce du Seigneur. C'est seulement une grâce du Seigneur. Et moi, je ne sais pas, mais à la limite, en voulant représenter une statue de Dieu, je sais que ce n'est pas bien, mais je ne sais pas, j'aurais choisi un animal qui est imposant, comme un lion ou quelque chose qui fait peur. Mais là, ils ont choisi un veau. Même pas un bœuf, mais un veau. Et certains historiens disent qu'ils voulaient imiter le culte du dieu Apis qui avait lieu en Égypte, un dieu qui était représenté. Bon, ça, on ne voudrait pas s'avancer. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont représenté Dieu sous la forme d'une statue. Et que du coup, ils se sont éloignés de Dieu. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'ils ont commencé, par la bouche d'Aaron, c'est dit, ils ont commencé à vouloir faire un culte à ce Dieu, en croyant que c'était l'Éternel. En croyant que c'était l'Éternel. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Pas en l'honneur d'un autre Dieu. Non, en l'honneur de l'Éternel. Et si on met à part la statue et qu'on regardait la fête qui avait lieu, eh bien, on aurait pu constater que ça correspondait à ce qui était demandé dans la loi. Ils ont dû faire tout ce qu'il fallait, sacrifier les animaux comme il fallait, etc., etc. Mais il y avait un élément qui était là au milieu qui n'allait plus. Et ils se sont détournés totalement de ce que Dieu voulait. Et en apparence, ils avaient l'air d'être des gens sérieux, religieux, spirituels. Mais quand on regardait de près, on voyait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui sont dans cette attitude-là. Ils ont toute la bonne apparence. Parce que aux yeux des hommes, on ne peut juger que par l'apparence. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et peut-être qu'on a ce matin l'apparence de quelqu'un qui vient à l'église, qui prie, qui est là aux réunions, et qui croit qu'en lisant la parole d'une certaine manière tous les jours, comme moi je l'ai fait pendant un temps, et je lisais la parole de manière religieuse, et je pensais que je servais le Seigneur de cette manière. Et combien je ne savais pas que j'étais loin de sa face, parce que j'essayais de trouver des excuses dans cette parole pour pouvoir couvrir mon péché, au lieu de laisser la parole de Dieu faire son œuvre en moi, au lieu de laisser la vérité agir comme elle doit agir en moi, au lieu d'oublier la vérité, au lieu plutôt de chérir cette vérité, de la garder dans mon cœur et que je puisse être transformé par elle. Sans la vérité, nous sommes dans le désordre, sans retenue et sans frein. Regardez ce qu'il est dit au verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Quand on oublie la vérité de Dieu, quand on n'en tient pas compte, on est livré au désordre. La vérité, elle est là comme un chemin tracé qui nous permet de ne pas tomber d'un côté, ni de tomber de l'autre côté. C'est ce chemin qui est, c'est sûr, il est étroit. Jésus a dit qu'il était lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et si nous marchons par lui, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Il faut faire attention dans les pas que nous faisons, de toujours marcher sur ce chemin. Mais par contre, on ne va pas tomber d'un côté ou de l'autre. Combien nous avons besoin de cette vérité pour que notre aspect extérieur de religion, je vais dire, soit quelque chose qui soit la religion pure et sans tache que le Seigneur demande. Quelque chose de vrai, quelque chose que le Seigneur attend de nous. Combien nous avons besoin de comprendre que si nous continuons, si nous commençons par l'impatience, nous allons aller jusqu'à ce qu'est allé ce peuple d'Israël, c'est-à-dire l'idolâtrie. Vous avez vu comment ça finit ? À la fin de la journée, ils ont bien mangé, ils ont bien bu. Et en plus, vous savez que le repas qu'ils ont partagé, c'était sûrement des sacrifices qu'ils avaient donnés à l'Éternel, enfin, au pseudo-Éternel. Et à la suite de ce repas, ils ont tellement été heureux de faire cela qu'ils ont commencé, peut-être qu'ils ont même été dans l'excès, ils ont commencé à danser, faire des danses autour de la statue, comme ils avaient vu faire sûrement dans les peuples aux alentours. Et ils ont commencé par simplement de l'impatience, mais ils ont fini dans l'idolâtrie. Et souvent, quand on commence à s'éloigner du Seigneur, ça commence de façon petite. Ça commence tout doucement. Mais le résultat, la conséquence, c'est qu'on tombe dans l'idolâtrie. Et il y a une seule chose qui permet de détruire l'idolâtrie dans le cœur, et vous savez ce que c'est ? C'est l'épée de la parole. L'épée de la parole qui permet de détruire l'idolâtrie. Regardez au verset 29, Moïse qui dit, on peut lire au verset 26 pour voir le contexte. « Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3 000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » C'est quelque chose de terrible. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on lit cette histoire, on frémit. Mais, il faut rappeler qu'on est sous la dispensation de la loi à ce moment-là, qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pas parce qu'on voit notre frère prêcher qu'on va sortir son épée et aller le tuer. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, mais Dieu a permis que nous ayons cette histoire pour comprendre que quand on laisse le péché dans notre cœur, quand on oublie la parole, l'idolâtrie vient, on se trompe, on a le regard faussé, on se rend peut-être même pas compte, mais ce n'est plus Dieu qu'on est en train d'adorer, c'est quelque chose d'autre, peut-être un moyen humain, ou peut-être une personne, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. En tout cas, quand on oublie la parole de Dieu, quand on n'est pas centré sur cette parole, c'est quelque chose de grave à ses yeux. Et il n'y a que le seul moyen de détruire l'idolâtrie dans notre cœur, c'est d'utiliser cette parole comme une épée. Vous savez que la parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit. Dieu nous a laissé sa parole, ses commandements. Et justement, si nous sommes, comme je l'ai été à un moment donné, dans cet état de cœur où nous avons désobéi à quelque chose en particulier dans notre vie, mais nous couvrons notre vie d'autres choses, peut-être nous faisons des bonnes œuvres, nous essayons d'être là à toutes les réunions, nous essayons de lire la Bible tous les jours, nous essayons de faire toutes ces choses et de penser que ça va couvrir tout cela, mais non, parce que là, moi je sais que pendant un temps, mon cœur était dans l'idolâtrie peut-être de la propre justice. J'avais mis les œuvres en premier avant de mettre Dieu en premier. Dieu me disait, règle ton problème, et moi je disais, Seigneur, tu vois, c'est tout ce que je fais. En plus, étant donné que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai jamais fait comme on pourrait dire, de grands péchés. Même si c'est pas bien de le dire, vous me comprenez. J'ai jamais fait de grandes choses. Je me souviens, une des pires choses que j'ai pu faire, c'était quand j'étais enfant, d'avoir volé un stylo dans la trousse d'un camarade de classe. Et quelque chose que j'ai demandé pardon de tout mon cœur d'enfant, mais c'est vraiment une des choses les plus graves que j'ai pu faire. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps que j'avais bâti ma vie chrétienne sur de la propre justice. Et quand je lisais cette image que le Seigneur employait par rapport aux pharisiens qui priaient, Seigneur, je te remercie parce que moi je ne suis pas comme les autres hommes, moi je donne ma dîme, moi je fais ceci, moi je fais cela, et je ne suis pas comme ce publicain qui est à côté là, par terre. Et bien, un jour cette parole m'a touché à moi. Et j'ai compris qu'il fallait que j'enlève toute la propre justice. Et comment l'enlever si ce n'est en plongeant mes regards dans la loi parfaite et laisser se faire son œuvre en moi. L'épée de l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'efficace. On voit que Moïse, il a demandé à ces personnes qui se sont mises à part, qui se sont consacrées, les Lévites, justement, ils ont pris leur épée, il leur a dit, allez-y, tuez tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont commis l'idolâtrie, même si ce sont quelqu'un de votre famille. Et le Seigneur voudrait nous interpeller ce matin en nous disant, prends l'épée de l'Esprit, prends la parole de Dieu dans ta main, laisse le Saint-Esprit agir au plus profond de ton cœur, non pas envers les autres, mais là c'est envers nous-mêmes, et tue ce qui en toi est coupable, les désirs mauvais, tue les choses qui sont là, tue les péchés que tu as laissés traîner depuis tant et tant d'années, tue ces choses par l'épée de l'Esprit, et tue la chair qui est là, qui voudrait remonter à la surface, tue ton ancienne nature qui voudrait toujours revenir, tue toutes ces choses, tue tout ce qui est cher à tes yeux, mais qui n'est pas cher aux yeux de Dieu, prends l'épée de l'Esprit et laisse lui le soin d'agir dans ton cœur. Et alors, tu seras délivré de l'idolâtrie. Alors, tu seras approuvé du Seigneur Jésus. Alors, tu pourras marcher dans ce que le Seigneur a tracé pour toi. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, et en allant dans d'autres églises, et en voyant beaucoup de chrétiens de toutes sortes d'assemblées, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est là dans ce monde. C'est que souvent les gens oublient la parole. Alors bien sûr, ils ont toute une apparence extérieure de chrétien. Mais ils oublient la parole. Ils n'ont pas cet attachement pour la parole. Ils n'ont pas cet attachement, ce désir d'utiliser cette parole de la manière que le Seigneur nous a demandé de le faire. Et j'aimerais qu'on puisse lire justement ce passage. J'écoutais justement un pasteur, vous le connaissez, vous avez sûrement dû mieux le connaître que moi, Monsieur Roux. J'ai eu l'occasion d'entendre un passage et j'étais frappé de la façon dont il expliquait ce passage-là. C'est dans Hébreux chapitre 4. Vous le connaissez bien en plus, ce passage. Hébreux chapitre 4. Combien nous avons besoin de comprendre ce passage, mais de le comprendre de manière spirituelle, de le comprendre avec toute la profondeur que le Seigneur voudrait qu'on le comprenne. Pas seulement de savoir que la parole c'est une épée, c'est très bien de savoir ça, c'est très bien d'avoir une image visuelle qui nous rappelle comment s'en servir, mais d'utiliser véritablement, de prendre l'épée de l'Esprit. Alors, Hébreux chapitre 4 et le verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La conséquence, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et quand on lit ce passage, on a l'impression qu'il y a toutes sortes de phrases qui sont imbriquées les unes aux autres sans vraiment de lien directement. Et quand on réfléchit véritablement, et c'est ce que le frère Roux s'est rappelé dans son message, il y avait cette pensée qui était là, que quand on utilise la parole de Dieu comme une épée de l'esprit et qu'on la laisse pénétrer en notre cœur et séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, aller au plus profond de notre âme et séparer les bons désirs des mauvais désirs, séparer les bons motifs des mauvais motifs. Quand on laisse faire cette œuvre, on laisse la voie à ce que le Seigneur puisse nous utiliser. Et Dieu nous a donné cette image aussi du sacrificateur. Et vous savez que le sacrificateur, il avait, quand il présentait le sacrifice, il avait une épée aussi. Et avec son épée, il ouvrait l'animal et justement il mettait à nu tout l'intérieur de l'animal avec l'épée. Voilà pourquoi il est parlé du souverain sacrificateur. Et le Seigneur nous dit, Jésus nous dit lui-même, puisqu'il est le divin souverain sacrificateur, utilisez cette épée. Laissez l'épée de l'esprit envahir votre cœur. Laissez cette épée de l'esprit mettre à nu, mettre à découvert tout ce qui ne va pas en vous. De toute façon, il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est à découvert. Mais c'est combien vous avez besoin vous-même de le mettre à découvert par rapport à vous-même. Souvent, on se cache les choses à nous-mêmes. On a besoin de laisser le Saint-Esprit mettre ces choses à découvert. Et on a besoin, comme il est dit à la fin de ce passage, de nous approcher du trône de la grâce et de prendre tout ce que le Seigneur a mis à découvert, de le prendre dans nos mains spirituelles et de dire, Seigneur, tu vois cela, je veux y renoncer, je veux l'abandonner, je veux que tu le mettes à mort par ton esprit, Seigneur. Je veux renoncer à ces choses. Et souvent, c'est vrai qu'on a tendance à faire cette prière, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas ta gloire en moi. Enlève, Seigneur. Et le Seigneur, il dit, oui, d'accord, je vais l'enlever, mais d'abord, toi, fouille ton cœur par la parole, fouille ton cœur par le Saint-Esprit, prends du temps dans ma présence et amène-moi tout ça. Et là, je vais pouvoir l'enlever, parce que j'ai donné ma vie pour cela. Mais je ne vais pas le faire si toi, tu te croises les mains et que tu attends que tout se fasse. Non, le Seigneur, il attend que nous gardions la parole véritablement, que nous soyons patients quand il nous fait des promesses, que nous gardions ces choses. Et je voudrais qu'on lise un deuxième passage, qui se trouve dans Lévitique, chapitre 9, verset 22. Lévitique, votre livre préféré. D'accord? Non? C'est vrai que quand on le lit au premier regard, on a du mal. Hein? Lévitique, chapitre 9, verset 22. Mais vous voyez, ce matin, nous allons lire un passage. Et je crois que le Seigneur veut nous parler à chacun. Même dans le Lévitique, il veut nous parler. Alors que nous puissions le laisser faire. Lévitique, chapitre 9, verset 22. Il est encore question des fils de Lévi. C'est les fils d'Aaron, exactement. Mais avant cela, nous lisons au verset 22 de Lévitique 9. Aaron leva les mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Amen. Ça, c'est des paroles incroyables. Le feu... Dieu manifeste son approbation en envoyant le feu sur l'autel qui vient consumer l'holocauste, qui vient consumer tout ce qui était présenté là et qu'il fallait qu'il soit consumé. Dieu envoie lui-même le feu, alors que c'était le sacrificateur qui aurait peut-être dû l'allumer. Là, c'est Dieu qui l'envoie. Et qui montre, il montre sa gloire, quelque chose d'incroyable qui prend place. Le peuple, il est là, ils sont tous heureux, ils poussent des cris de joie, ils se prosternent à terre. Et juste après... au chapitre 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. En peu de temps, il y a quelque chose qui se passe d'incroyable, c'est qu'il y a le feu de l'approbation de Dieu qui vient sur l'autel, et juste après, le feu qui vient aussi de Dieu qui tombe sur les gens, parce qu'ils ont commencé à faire quelque chose que Dieu n'avait pas ordonné. Et on pourrait dire encore une fois, combien c'est quelque chose de dur, c'est difficile, et j'arrive pas à comprendre cette parole, mais on est tous les jours de notre vie, on est autour de certains éléments qui nous rappellent que si on ne contrôle pas ces éléments, ils peuvent nous faire du mal. Je veux penser par exemple à l'électricité. Est-ce que c'est bien l'électricité? Moi j'ai vécu en Afrique pendant 6 ans, et on avait 2 ou 3 heures d'électricité par jour. Donc je peux vous dire que c'est bien l'électricité. Je sais ce que c'est. Quand je suis revenu, j'appuyais sur le bouton, même la nuit, et j'étais émerveillé de voir que c'était allumé. Pour vous dire, tellement ça m'avait marqué. Mais l'électricité, est-ce que c'est pas dangereux? Si on fait n'importe quoi. Pourquoi les parents, est-ce qu'ils disent à leurs enfants de ne pas mettre les fourchettes ou les doigts dans les prises? Est-ce que c'est pour les punir? Est-ce que c'est pas pour les préserver? Parce qu'on sait que l'électricité, c'est mauvais. Alors, bien sûr, c'est qu'un exemple, et je ne voudrais pas comparer la présence de Dieu, la parole de Dieu, à l'électricité seulement. C'est tellement bien plus que ça. C'est tellement bien plus sérieux que ça. Et c'est pour cela que nous avons besoin, nous aussi, d'être sérieux. Et c'est comme l'exemple du feu. J'avais pris une fois cet exemple aux jeunes. Je leur disais, est-ce que le feu, c'est quelque chose de bon? C'est quelque chose de bon, le feu, on est d'accord. Mais tout dépend de la façon dont on l'utilise. Si c'est pour faire un barbecue l'été, bon, il y en a à qui c'est arrivé cet été. Moi, ça m'est arrivé, je l'avoue. Et c'était quelque chose de bon. Alors, pas forcément pour les kilos, on est d'accord. Mais, oui, non, ne rigolez pas trop, hein. Je vais me vexer. Mais si on est devant un incendie de forêt tout autour de nous, est-ce que c'est une bonne chose? Et qu'on est pris là, au milieu de cela, est-ce qu'on va se réjouir d'avoir un feu autour de nous? Le feu, c'est quelque chose de bien s'il est maîtrisé. S'il est retenu, comme le feu dans la cheminée, c'est retenu. Moi, j'étais dans une usine où il y avait une chaudière à très haute vapeur, très haute pression, et il y avait une flamme qui était là, maintenue en permanence, et tant que c'était maîtrisé, c'était très bien. Mais si c'était pas maîtrisé, ça pouvait exploser, et ça pouvait apporter la mort. Et la parole de Dieu, c'est cette même... Il y a cette image qui est là. Si nous en prenons soin, et Dieu nous a laissé sa parole, Dieu nous a laissé des ordonnances, Dieu nous a laissé tous ses commandements, non pas pour nous punir, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire connaître sa volonté, pour nous faire connaître ce qui était bon pour nos vies, pour nous faire connaître comment être heureux sur cette terre, pour nous faire connaître le meilleur moyen de vivre sur cette terre. Mais dès l'instant où nous délaissons cette parole, dès l'instant où nous la négligeons, comme Nadab et Abihu ont négligé la parole, eh bien nous sommes en danger. Et en danger, eux, ils ont été consumés. De la même manière qu'il y a eu le feu sur l'offrande, il y a eu le feu qui est venu sur eux. Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la parole. Le feu étranger, c'est quoi? Le feu étranger, c'est quand je néglige certaines choses de la parole de Dieu. Je néglige, par exemple... Je prends un exemple, mais je voyais à mon travail comment ça se passait. Certaines personnes qui voyaient des outils ou qui voyaient toutes sortes de choses, qui traînaient au travail, qui les prenaient, ils disaient « Oh, c'est pas très grave, après tout, ils ont les sous. » C'était une usine qui tournait bien, donc il y avait un peu d'argent. Alors, ils se permettaient de prendre les outils, de récupérer telle ou telle chose à droite et à gauche. Et je ne sais pas si c'est le cas de quelqu'un ce matin, mais je prends des exemples. Le feu étranger, c'est de savoir que Dieu a dit « tu ne voleras point » et de se permettre de faire certaines choses dans nos vies. Mais Dieu ne nous a pas dit ça pour nous condamner. Dieu nous le dit pour nous apporter la vie. Et souvent on dit « Seigneur, envoie ton réveil, Seigneur, viens nous visiter, Seigneur, viens faire ton œuvre en nous. » Et les petites choses comme ça qui sont là, dans notre vie, on les néglige. Et on voudrait que Dieu fasse tout d'un coup rentrer des foules entières dans l'église et que des milliers se convertissent, des milliers soient guéris, etc. Mais il y a le petit travail que le Seigneur nous demande au travers de la parole, on ne le fait pas. Et vous avez remarqué avec moi ce qui a été nécessaire pour que Dieu envoie son feu. Oh, le premier feu, le feu de l'approbation. Aaron, il a offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Ça serait tellement intéressant, encore une fois, de regarder la signification de chacun en détail, mais je voudrais juste survoler ce matin. Sacrifice d'expiation nous parle de cette culpabilité et de cette demande de pardon. Quand quelqu'un offrait le sacrifice d'expiation, c'était qu'il reconnaissait son péché et il voulait être pardonné. Et Dieu nous a laissé sa parole pour qu'elle fasse ça en nous, pour qu'elle nous amène à nous sentir coupables, mais pour qu'elle nous amène aussi à demander pardon, pour que nous puissions présenter ces choses au Seigneur. Il a offert l'holocauste. L'holocauste, ça nous parle de cette image de se donner tout entier, qu'il n'y a pas une portion de nous-mêmes qui reste pour nous, on se donne tout entier. Et là, ils offraient un animal et ils le brûlaient totalement. Il n'y a aucune portion qui était donnée au sacrificateur ou à celui qui offrait l'animal. Il était brûlé totalement. Combien ça nous interpelle. Et le sacrifice d'action de grâce, c'est cet esprit de reconnaissance et ce désir d'être en communion avec le Seigneur. Quand les gens ils offraient ça, c'est qu'ils voulaient bénir le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Ou ils n'avaient pas de raison particulière, mais ils voulaient entretenir leur communion. Ils voulaient dire, Seigneur, je veux toujours être avec toi. Seigneur, je veux toujours te suivre. Et ils offraient ce sacrifice. Et quand ils ont fait cela, quand Aaron a fait cela pour le peuple, Dieu a envoyé son feu. Dieu a envoyé, a manifesté son approbation. Si nous veillons à nous, à être continuellement dans cet état d'esprit, continuellement à être, quand on découvre quelque chose qui ne va pas dans notre vie, à demander pardon, à être dans cette culpabilité, avoir cette conscience aiguisée qui nous permet de ne pas rester longtemps. Quelqu'un me disait récemment que quand il venait de pécher, il se sentait mal, il sentait qu'il méritait pas d'être dans la présence de Dieu. J'ai dit, mais c'est bien, c'est pas bien de pécher. Mais c'est bien d'avoir ce sentiment, parce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi, il est en train de te parler, il est en train de te dire qu'il est attristé, et il est en train de te dire, reviens dans la présence de Dieu, et demande pardon, et sois libéré de ton péché, reçois l'abondance de la grâce pour vivre dans la vie que Dieu veut que tu vives. Ne reste surtout pas, comme l'accusateur voudrait qu'on reste, dans cet état d'accablement, de tristesse, de se frapper la poitrine continuellement, et de jamais prendre la victoire que le Seigneur nous laisse au travers de sa parole. Le Seigneur nous demande d'avoir cette attitude. Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, montre-le-moi. Et si tu me le montres, Seigneur, je veux te l'apporter. Je veux que tu envoies ton feu, que tu brûles tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je veux, Seigneur, me donner tout entier à toi. Je veux, Seigneur, avoir cet esprit de reconnaissance. Est-ce que vous êtes reconnaissant, Seigneur? Est-ce que vous remerciez le Seigneur jour après jour par rapport à tout ce qu'il fait? Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que nous avons, c'est une grâce? Il y a quelqu'un qui a dit dans sa prière, Seigneur, tout ce qu'on peut t'apporter, c'est toi qui nous l'a donné déjà. Et David avait fait cette même prière. Est-ce que nous reconnaissons que tout ce que nous possédons, et combien nous sommes heureux en France de posséder ces choses, mais est-ce que nous reconnaissons que c'est une grâce du Seigneur? Est-ce que nous reconnaissons que ça peut être un danger si justement nous n'avons pas cette attitude de dire, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Je veux pas m'y attacher plus que de mesure. Je veux faire attention, Seigneur. Je veux être sérieux avec ta parole. Je veux finir avec cet exemple. Le soleil. Le soleil, il est bénéfique pour les arbres. Vous êtes d'accord? Il y en a qui ont des jardins, il y en a qui ont des arbres fruitiers, etc. Ils savent ce que je veux dire. S'il n'y a pas de soleil, quand on a été au mois d'hiver et au printemps où il n'y a pas eu beaucoup de soleil, on sait que les récoltes n'ont pas été très bonnes. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont faites, qui n'ont pas pu se faire plus tôt. Le soleil est important. Et si un arbre est planté au soleil, à la lumière, il va pouvoir grandir, il va pouvoir être nourri de la chaleur, etc. Et il va pouvoir pousser et produire du fruit. Mais si on prenait un arbre qui est en train de pousser, qu'on le sortait totalement et qu'on l'approchait au maximum du soleil, qu'est-ce qui se passerait? Il sécherait en un instant. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec ces personnes. Ils ont été négligents par rapport à la parole. Parce que, il faut s'en rappeler quand même, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas des débutants qui ne connaissaient pas du tout la loi juive. Ce n'était pas des gens qui venaient de se convertir, un peuple étranger qui venait de se convertir. C'était ceux qui étaient mis à part pour le service, qui avaient reçu une formation, qui avaient même des habits sacerdotaux. Donc leur travail, leur habit leur rappelait qu'ils avaient un travail, qu'ils étaient mis à part pour le Seigneur d'une façon particulière. Ils avaient reçu des ordonnances. Et si vous lisez Exode 30, vous voyez que Dieu leur explique ce qu'il faut faire avec les parfums, avec les brasiers, etc. Qu'il ne faut surtout pas prendre un feu qui vient d'ailleurs. Et Dieu avait dit, si vous ne respectez pas ça, vous risquez la mort. Ce n'étaient pas des gens qui n'étaient pas au courant. Dieu ne va pas se permettre de juger quelqu'un qui est dans l'ignorance, de cette manière-là. Dieu va juger quelqu'un qui connaît les choses, mais qui les néglige, qui considère que ce n'est pas important, c'est des petites choses, mais ce n'est pas important. Oh, j'ai pris cet outil à mon travail, mais ce n'est pas important. Oh, j'ai téléchargé telle chose sur mon disque, mais ce n'est pas important. Et combien je me rends compte qu'on a beaucoup de choses dans nos vies qui peuvent être des éléments sur lesquels Dieu peut dire son mot et qu'on a considéré comme des petites choses, des choses négligeables, des choses de peu d'importance, mais qui, aux yeux de Dieu, ont une importance capitale parce que ça l'empêche que nous soyons approuvés, ça l'empêche de nous bénir, ça l'empêche à certains peut-être de recevoir le Saint-Esprit, ça empêche à certains de de recevoir la guérison. Ça me rappelle cette histoire d'un pasteur à qui une femme est venue le voir et a demandé de prier pour elle. Et ce pasteur, qui avait pas du tout, qui était un docteur plus qu'un évangéliste, bon, il a prié très très simplement et il a commencé à faire cette prière. Et puis il a ressenti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y a rien qui s'est passé du tout. Et cette femme, elle est repartie comme elle est venue. Et puis, un an après, cette dame, elle est revenue voir ce pasteur. Et elle a dit, « Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi, à nouveau ?» Alors, le pasteur, il a dit oui, et pour la même chose, elle avait un cancer. « J'ai une grosseur au niveau du sein, Seigneur, pasteur, priez pour moi, s'il vous plaît. » Et le pasteur, il a dit, « Bon, mais je vais prier, mais la dernière fois, ça n'a pas marché. Moi, c'est Dieu qui fait selon sa volonté. » Mais elle a dit, « Pasteur, avant que vous priez, je voudrais vous dire quelque chose. Ça fait plusieurs années. Mon mari, il est dans votre salle, parce que c'est un enseignant à l'école biblique. Mon mari, il vous écoute à l'école biblique. Et quand il rentre à la maison, il ne fait que parler de vous. Combien un tel, il m'a apporté. Combien un tel, son cours m'a béni. Combien un tel, il y avait la présence de Dieu quand il a prié. Et à force qu'il me disait ces paroles, je ne supportais plus. Je ne supportais plus votre nom. Je ne supportais plus et j'ai commencé à vous calomnier. J'ai commencé à dire des choses fausses sur vous. J'ai commencé à parler mal de vous autour de moi. Et alors que je priais, parce que la maladie était là, et vous savez, quand on est malade, il y a certains moments où ça nous rapproche quand même de Dieu, ça nous force à nous rapprocher de Dieu. Et cette femme, elle était dans cet état d'esprit. Et alors qu'elle était en train de prier, Dieu lui a dit, « Demande pardon à cet homme. Demande pardon. » Alors cette femme, elle est venue, elle a dit, bah, « Le Seigneur m'a mis à cœur de vous demander pardon. » Et que vous puissiez prier pour moi, pour ma guérison. Et cette femme, elle a commencé à dire, pardonnez-moi, pasteur, pardonnez-moi. Je regrette tout ce mal que je vous ai fait. Je reconnais que c'est quelque chose de mauvais. Il est dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et je reconnais que j'ai porté du faux témoignage. C'est peut-être des petites choses, des petites paroles par-ci, par-là. Mais ça a empêché à cette dame de recevoir la guérison. Et quand elle a confessé son péché devant le pasteur, il a même pas eu le temps de prier que... Elle est repartie à sa place, elle était guérie. Parce que Dieu avait déjà entendu la prière de l'année d'avant, mais ce qui bloquait, c'était cet élément dans la vie de cette dame. Combien nous devons être attentifs, ne pas négliger la parole, ne pas la négliger, ne pas non plus l'oublier. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas m'étaler ce matin. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps dans la prière, un temps où nous allons examiner nos cœurs. Nous l'avons fait par rapport à la Sainte-Seine, mais nous pouvons le faire maintenant par rapport au message. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore ce matin? Qu'est-ce que tu veux révéler en moi? Sur quel élément de ma vie tu veux mettre ton doigt pour que je puisse recevoir l'approbation divine? Seigneur, quel élément je dois obéir? Quel commandement je dois faire, exécuter? À quel endroit je dois régler ma vie pour que tu puisses m'approuver, Seigneur? Eh bien, laissez l'épée de l'Esprit ce matin faire cette œuvre en vous et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Merci Éternel. Merci parce que tu nous as laissé ta parole. Et tu nous as, Seigneur, consacré au travers de cette parole, Seigneur. Tu nous as mis à part. Oui, Seigneur, nous avons ce privilège d'être à part de ce monde à cause de cette parole que nous avons reçue, qui a eu son écho dans notre cœur. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas l'oublier. Aide-nous à ne pas la négliger. Aide-nous à ne pas la mépriser, Seigneur. Aide-nous à être sérieux. Aide-nous à être de ces personnes qui tremblent devant ton nom. Ces personnes qui ont la crainte de ton nom, Éternel. Ces personnes qui ont ta loi de la vérité dans la bouche et dans leur cœur. Seigneur, viens graver ces choses dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as fait cette promesse que nous allions avoir une nouvelle alliance au travers de ton Fils Jésus-Christ, au travers de sa mort et de sa résurrection. Nous entrons dans une nouvelle alliance. Tu tâches envers nous, Seigneur. Et tu nous laisses ta parole pour qu'elle puisse agir, être puissante et efficace en nous, Seigneur, alors que dans ces instants, tu puisses juger les sentiments et les pensées de notre cœur. tu puisses faire ressortir, mettre à nu tout ce qui ne va pas, Seigneur. Tu puisses, Seigneur, faire ressortir tous les obstacles de nos vies. Oui, Seigneur, combien nous avons déjà grandi en toi, combien nous avons déjà progressé, mais nous croyons, Seigneur, qu'il y a encore des choses en nous et nous ne voulons pas les laisser telles quelles. Nous voulons que tu interviennes par ta parole toute puissante. Seigneur, que ta vérité brûle dans nos cœurs. Oh Seigneur, tu as envoyé ton feu d'approbation sur le sacrifice et nous voulons avoir cet esprit de sacrifice. Nous voulons avoir cet esprit de renoncement à nous-mêmes, cet esprit de renoncement aux choses de ce monde aussi, Seigneur. Cet esprit de renoncement à ces choses qui peuvent briller autour de nous, afin que ton feu puisse tomber sur nous, le feu de ton approbation et non pas le feu de la colère. Alors Seigneur, viens dans ces moments, aide-nous à ne pas négliger, aide-nous à ne pas oublier, mais aide-nous à être sérieux, garde-nous de l'idolâtrie, aide-nous à avoir cette patience pour ne pas, Seigneur, nous écarter du droit chemin, mais à toujours rester fidèle à ta parole, toujours être obéissant. Oui Seigneur, tu as dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors Seigneur, nous voulons être des sacrificateurs qui sont obéissants à ta parole, qui t'apporte ce sacrifice d'adoration de notre vie qui t'obéit jour après jour et après jour. Seigneur, dans ces instants, tu bénis ton peuple, tu donnes une portion à chacun, Seigneur, pour sa bénédiction éternelle. Oui, Seigneur, comme Aaron a béni le peuple, Seigneur, je veux bénir ton peuple parce que tu es un Dieu qui veut la bénédiction. Tu nous as laissé ta parole pour que nous soyons une bénédiction, que nous soyons bénis nous-mêmes et que nous bénissions les autres. Alors fais-le dans ces instants par ta parole. Alléluia Jésus. Alléluia.